Comment faire disparaître une ombre, de Pierre Sange.
Comment faire disparaître une ombre, d'après une histoire fausse. Acte 1, scène 1, les dessous d'un théâtre, Tenon et Mortaise, machiniste.
Je n'en démords pas, 2 et 2 font 4, mon ami, et 4 et 4 font...
Ne te fatigue pas, tout le monde sait ça. Quelque chose comme 8.
Moi, cette fidélité des nombres elle-même, eh bien, elle m'éblouit. Attention, tu mets les pieds.
N'empêche que 3 deniers font 1 liard, et 40 liards font 10 sols. Mais il en faut 20 pour faire une livre. Je veux dire 20 sols. Autrement dit, 80 liards. Par ailleurs, il faut 3 livres pour faire un écu, et donc 12 deniers pour faire 10 fois moins qu'une demi-livre. Maintenant, écoute, si je prends 6000 écus...
Je me demande comment tu vas t'y prendre.
J'ai toujours eu la mémoire des nombres.
Les nombres? Je te parle de nombres?
De chiffres, peut-être.
Pas davantage, les deniers, les liards, les écus. 6000 écus. Je me demande comment tu vas t'y prendre pour les prendre. Où est-ce que tu trouves ça?
Je sais pas, dans ma tête, je suppose. Pas dans ma poche, en tout cas.
Soit. Mais dis-moi maintenant comment ils y sont entrés.
Disons les choses comme ça. Je prends un écu, un seul, et...
Je t'écoute.
Je le multiplie par 1000.
C'est tout?
Je crois, oui.
Mon garçon, attention à tes pieds. Comme tu as vu, les planchers sont à claire-voie. Ça permet de faire circuler toutes sortes de choses de bas en haut. En premier lieu, toute la ficelle. Mais garde à ne pas passer ta jambe au travers, ni à laisser tomber tes 40 liards qui font une demi-livre. Tu les retrouverais dans le troisième dessous.
J'ai compris.
Maintenant, dis-moi, multiplier par 1000, je veux bien, je l'ai déjà fait, mais 6000 écus, entre toi et moi, 6000, tu arrives à les imaginer? En toute honnêteté.
En toute honnêteté, non.
Tu me rassures, parce que 6000 écus, c'est un monceau d'argent, un monceau inimaginable, un peu comme la tour de Babel, tout en haut de la tour. Maintenant, écoute-moi bien, je te l'ai déjà dit, mais je me répète, il faudra t'y habituer. Là où on se trouve, on appelle ça les dessous, parce qu'on est au-dessous de la scène.
C'est logique.
En dessous du premier dessous, c'est le deuxième dessous. Et en dessous de ce dessous-là, le troisième.
De plus en plus logique. Il y en a beaucoup comme ça?
Tous les dessous reprennent exactement le plan de la scène. Avec les trappes et les trapillons. À l'emplacement des costières se trouvent les rails. Mais seulement dans le premier dessous. Plus bas, on n'en parle plus.
Ah!
Attention à tes pieds malheureux.
Je voudrais vexer personne, mais j'ai déjà vu des charpentes plus stables. Il y a du mou.
Exact. C'est ce qui fait tout le charme du théâtre.
Tu veux dire que le théâtre, plus c'est mou, mieux c'est?
Je te parle en charpentier. La fixité est la mort du théâtre. S'il n'y avait pas les ressorts, les volets, les trappes qui s'ouvrent et qui se ferment, les tampons qui descendent et remontent pour faire surgir des personnages, il ne resterait plus qu'un plancher plat et 2 ou 3 bonhommes dessus. Toujours les mêmes, debout, désespérant.
Je vois.
Heureusement, on est là, dans les dessous. La demeure des démons et des mauvais génies, comme disait je ne sais plus qui.
On se sent tout de suite chez soi.
Si un jour le diable doit apparaître, ce sera grâce à nous et ça se passera ici.
Je voudrais bien voir comment.
Je te montre. Une fois que le tampon est libre, tu refermes le tiroir de la trappe, comme ça. Pendant que je repêche le contrepoids, tu prends le fil de droite et tu le mets en retraite sur la palette. Là, juste derrière toi. Ce qui donne du mou au fil de gauche, tu vois. J'attache le raid du fil de gauche sur la palette de mon côté. À un moment, j'ouvre à nouveau le tiroir de la trappe. Puis je fais aller le contrepoids. Du coup, le tampon remonte. Et voilà le travail.
Pour une fois, ça paraît plus facile à faire qu'à dire.
Maintenant, imagine que sur le tampon, un monsieur a pris place déguisé en Belzébuth. Alors le diable apparaît. Et plus ça va vite, mieux c'est.
Scène 2. Acte 1, scène 2. Un petit salon le soir. Le surintendant des finances Nicolas Fougerolles, Madame de Sévigné.
C'est à vous de jouer, vous savez.
Oui.
Vous êtes étourdi comme un hanneton, mon ami. Vous ne pouvez pas jouer votre valet sur Madame.
Pourquoi pas? Ils sont de la même couleur.
Précisément. Ils sont de la même couleur et la règle l'interdit.
Vous êtes sûr?
Ah non, ça ne va pas non plus.
Mais je n'ai pas joué la même couleur cette fois.
Peut-être. Mais vous avez placé un 7 de pique. Pourquoi un 7 de pique ?
Eh bien, à cause de la dame de carreau et avant ça, le 8 de quelque chose.
À votre avis, à quel jeu jouons-nous depuis un quart d'heure, mon mignon ?
Au nain jaune.
Au nain jaune. Pourquoi pas au papillon ?
Je sais, ne me soufflez pas. À l'ambigu. Non, au lansquenet.
Il faut être 4 pour jouer au lansquenet.
Je donne ma langue au chat.
Vous auriez dû commencer par là. En vérité, votre façon de jouer depuis tout à l'heure est tellement serpentine que j'ai bien dû changer 3 fois de règles du jeu pour m'adapter, sans vous brusquer. On est passé du chat qui dort au jeu de poule. Et pour finir, il va falloir trouver un nom nouveau pour un jeu de votre invention. L'écureuil somnambule, qu'est-ce que vous en dites ?
Mais j'en déduis que j'ai une tête de somnambule.
On dirait qu'on vient de vous tirer du lit pour vous annoncer une bonne nouvelle et depuis, vous hésitez entre le sommeil et la béatitude. Vous avez encore la marque de l'oreiller.
Mieux vaut la marque de l'oreiller que celle des poussettes. Bon, finalement, à quoi joue-t-on ?
Les devinettes. Laissons tomber les cartes pour ce soir, ça ne marchera pas. Vous êtes un vrai mystère, vous savez.
On me l'a déjà dit.
N'écoutez pas les autres quand ils vous le disent. Écoutez-moi quand je vous parle. Vous sortez des meilleurs collèges. À 16 ans, vous êtes conseiller au Parlement, à 25 ans, maître des requêtes. Vous voilà maintenant responsable des finances du pays. Le trésor royal est entre vos mains. Vous réassignez de vieilles créances qui ne valent plus rien. Aussitôt, elles se changent en or. Vous avez fait fortune, à pas de loup. Et malgré tout ça, vous êtes incapable de vous concentrer une minute sur un jeu de cartes idiot ?
Peut-être que s'il était moins idiot, je veux dire, s'il exigeait qu'on mise, s'il promettait qu'on gagne, s'il y avait un peu d'argent en jeu, et même beaucoup, il susciterait l'attention.
Et la beauté du geste dans tout ça ? La gratuité ?
Je trouve très belle l'idée de pouvoir perdre énormément sur une seule carte. C'est bien la preuve que l'argent ne m'intéresse pas. Se ruiner, c'est encore plus noble que toute votre gratuité de pastoral.
Oh, je n'en suis pas certaine. Votre côté béat me turlupine encore plus que votre côté endormi. Vous avez tout à fait l'air du garçon ravi.
Je devrais avoir la mine sombre.
Ce serait beaucoup plus distingué. Le sombre, le préoccupé, le grave, un peu austère, vaguement dédaigneux, c'est en vogue. Et ça se porte avec tout.
Pardon pour la vogue, mais j'ai tout ce qu'il faut pour être heureux. Des propriétés, des millions dans mon portefeuille, d'autres conservés dans un garde-manger, des tableaux de Lebrun, l'amitié des poètes, des chiens de concours. Je devrais cesser d'être heureux.
Vous devriez cesser de le montrer. Une béatitude pareille et la réputation d'avoir toujours de la chance, ça agace certains.
Des envieux qui se nourrissent de raisins verts. On ne peut rien pour eux.
Méfiez-vous quand même.
Je n'ai rien à craindre. Mon avenir est écrit.
Ah oui ? Où ça ?
J'en sais rien. Peu importe. S'il le faut, je l'écrirai moi-même.
Puisqu'on parle d'avenir, laissez-moi vous dire la bonne aventure.
Vous savez vous y prendre ?
Non, mais ça revient au même. Là, au milieu, c'est le valet de cœur. À gauche, le roi de pique. À droite, la dame de pique. Et tout autour, le valet de pique, le 10 de pique, et ainsi de suite jusqu'à l'as. Voilà ce que j'appelle tirer les cartes.
Vous êtes lugubre de l'oracle. Mais pour tout vous dire, je ne crois pas à vos cartes à jouer. Je ne crois pas vraiment non plus à l'avenir écrit quelque part. Je préfère penser qu'il y a toujours une chance de s'en sortir.
Vous savez ce que disait Luther ? Dieu nous regarde vivre comme s'il assistait à un spectacle, au théâtre. S'il sait la fin d'avance, il s'ennuie. Alors, il nous octroie le libre arbitre. Notre liberté est la seule garantie que Dieu ne s'ennuiera pas.
Scène 3. Acte 1, scène 3. Un théâtre à Paris. Giacomo Torelli, ingénieur. Tenon et Mortaise, machiniste.
Je vous dirai comment faire apparaître l'arc-en-ciel, comment faire circuler un nuage, comment faire en sorte qu'un nuage descende du ciel sur la Seine en transportant des passagers. Je peux aussi faire descendre une personne du ciel et, une fois déposée sur le plancher, la laisser marcher ou danser à sa guise. Je peux simuler le vent, simuler les éclairs, faire surgir la mer, la faire se déchaîner et la calmer l'instant d'après. Je peux représenter le paradis et l'enfer. Je peux aussi faire naître l'aurore. Je simule l'éclair à l'aide d'une énorme pipe de fer blanc remplie jusqu'à la moitié d'une poudre de mon invention. Le couvercle est percé de trous. On y ajuste une lampe à esprit de vin. En soufflant dans le tuyau, j'exprime la poudre qui s'échappe par les trous et s'enflamme au passage de la lampe, puis s'éteint aussitôt au contact de l'air. Pour faire apparaître un homme dessous le plancher de la Seine, je fais fabriquer un brancard de bonne grandeur, placé juste sous le battant, légèrement rehaussé, ou bien je dispose d'un levier de longueur proportionnelle au poids. Je choisis un point d'appui près de la trappe d'où la personne devra surgir et je l'adapte sous la Seine du côté gauche en plaçant la personne sur la plus courte branche du levier. Je vous montrerai aussi comment simuler une catastrophe, l'écroulement de toute la Seine. En attendant, messieurs, je vous laisse travailler.
Ni bonjour, ni merci. Pour qui il se prend, celui-là? Pour le bon Dieu?
Pire que ça, pour Torelli, l'ingénieur.
Moi, je le verrais bien faire le montreur d'ours.
Tu l'as entendu? Il fait se lever l'aube, il fait tomber la pluie.
Il devrait plutôt faire tomber des côtelettes. Je commence à avoir faim.
En attendant, serre ta ceinture, jeûne et travaille. Si on ne plante pas des clous, l'aube de monsieur ne se lèvera jamais.
Scène 4. Acte 1, scène 4. Paris, un lieu tenu secret. Jean-Baptiste Colbert, ministre. Marguerite, domestique du surintendant Nicolas Fougerolles.
Je vous écoute.
Je n'ai rien pour le moment.
Cherchez encore.
Où ça?
Partout. Cette grande demeure comporte beaucoup d'angles obscurs, j'imagine.
Sauf votre respect, monsieur, je crois avoir regardé partout.
Vous le croyez, c'est très bien. Continuez jusqu'à ce que vous en soyez sûr. Il y a des tapis? Soulevez-les. Les domestiques font ça, d'ordinaire.
Je vais faire de mon mieux.
Vous avez pensé à regarder derrière les miroirs?
Oh, il y en a tellement. J'en aurai pour des jours.
Mais vous en aurez pour des jours. Vous travaillerez pour moi tant qu'il sera nécessaire. Je vous paie. En plus des gages que vous verse votre maître.
Monsieur va finir par s'en apercevoir.
Monsieur le surintendant des finances est d'un naturel confiant.
Je ferai attention de remettre chaque chose à sa place.
Ah, ne vous donnez pas cette peine.
Pardon, monsieur, mais je pensais la discrétion.
Rien ne vous oblige à être trop discrète. Nous sommes passés à une autre étape.
Bien, monsieur. Laquelle?
L'inquiétude.
Ah, sans doute, monsieur.
Allez, continuez. Et faites-moi du bon travail.
Si je savais ce qu'il faut trouver, la tâche serait plus facile.
C'est une question?
C'est une simple remarque, monsieur.
Vous vous trompez. C'est une question indirecte. Or, les questions indirectes sont discourtoises. Je tolère les questions directes.
Bien, monsieur.
Par exemple, que cherche-t-on au juste?
En effet, c'est une excellente question.
Et je peux vous répondre. Je n'en sais rien. Un billet. Une lettre, ou plusieurs. Un testament. Une reconnaissance de dette. Des livres interdits. Une image.
Ah, je vois. Ce genre de choses qui se plient en quatre et se dissimulent.
Des lettres de dames, notamment. Il paraît qu'il y en a beaucoup.
Et si on ne trouve aucune de ces lettres, monsieur?
Eh bien, comme toujours, je devrais m'en occuper moi-même.
Scène 5. Acte 2, scène 1. Nicolas Fougerolles, Jean-Baptiste Poquelin dit Molière, dramaturge. Chambre à coucher de Molière. Fougerolles assis, Molière alité.
La potion? Laquelle? Celle-là?
Non, non, l'autre.
Celle-là?
L'autre autre.
Il y a quoi dans cette potion? Laisse-moi deviner.
Du charbon de bois, de l'encre de sèche, de la suie de cheminée, du mercure, de la semence de sanglier exprimée par des pies, et du vinaigre de Xérès.
N'en jetez plus.
Tu vas pas me faire croire que tu espères te soigner avec cette chose. Pas toi. Tu t'en sers pour des incantations, tu ensorcelles quelqu'un. Me dis pas qui, laisse-moi te vider. Le grand Corneille.
Mes poumons.
Quoi?
Je soigne mes poumons.
Avec ce brouet? Tu dois te tromper. C'est au mieux un cataplasme. Ou c'est pour calfater de vieux navires.
C'est parfait pour moi.
Oh, et puis cette odeur horrible. Ça sent le... je trouve pas le mot.
Mais tant mieux, donne.
Quelqu'un t'a prescrit une potion pareille? Un médecin? Tu peux tout me dire, ça sortira pas d'ici. On t'a fait une saignée. Tu y as pris goût, ne dis pas le contraire. Je suis sûr que tu caches des lancettes sous ton oreiller.
Ah, au diable.
Enfin une parole amicale. J'ai failli te croire mourant.
Je ne l'ai plus tardé.
Il n'est pas question de mourir tout de suite. J'ai besoin de tes services. Je te commande une pièce.
Pour quelle occasion? Tu te remaries?
Pas vraiment. Et en vérité, il n'y a pas d'occasion. Ni naissance, ni fiançailles, ni inauguration. Je t'expliquerai.
J'espère bien.
Mon pauvre ami, tu es mal en point.
Ça se voit.
Ça s'entend aussi. Moi non plus, je ne vais pas très bien.
Oh, tu es rose. On dirait un cochon de lait.
Mais la santé, je n'ai pas à m'en plaindre.
On dit toujours ça au début.
Mais pour le reste... Des amis m'ont prévenu. On m'a donné des conseils. Il paraît que je dois me méfier.
Tu ne te méfiais pas jusqu'à présent?
Si, de mon jardinier. Cette fois, je dois me méfier du roi.
Tu ne te refuses rien?
Il paraît qu'il s'est mis à me détester. Je ne sais pas pourquoi.
Non?
Lui et Colbert. Certains me disent qu'ils font tout pour provoquer ma dégringolade. Qu'est-ce que tu en penses?
J'en pense que tu tomberais de très haut.
Tu le penses vraiment? Je veux dire que je peux tomber.
Il n'y a pas beaucoup de limites à sa volonté.
Tu parles de Dieu?
Non. Ce serait plus simple si ton adversaire était Dieu. Il ne met pas si souvent que ça ses menaces à exécution. Presque jamais. Ses promesses non plus, d'ailleurs. On ne peut même pas lui en vouloir. Il nous fiche la paix. Il voit venir.
Ah, tiens.
Quoi?
Quelqu'un m'a raconté quelque chose à ce sujet il y a 2 ou 3 jours. Dieu est au théâtre, il regarde la pièce qu'on est en train de jouer. Je me souviens plus de la fin.
C'est une histoire drôle?
Peut-être.
Alors un conseil. Si tu veux faire rire, n'oublie jamais la chute. Passe-moi le flacon, là. Et dis-moi ce que tu veux.
Celui-là? Ouf. Pire que l'autre. La maladie est un prétexte pour nous amener à fréquenter des substances qu'on aurait ignorées toute notre vie.
Je t'écoute.
Si je me souviens, dans ton festin de pierre, au dernier acte, Don Juan est damné.
C'est ce qu'il se raconte.
Il est englouti, avalé par les enfers.
Pour finir une pièce, on n'a pas trouvé mieux.
Je suis bien d'accord.
Heureusement que l'enfer existe.
Comment ça se passe?
Comme d'habitude, la terre s'ouvre, les diables nous emportent.
Attends, je veux dire concrètement.
Fourche, flamme, rôtissoir.
Je sais tout ça. Mais sur place, au théâtre, le comédien ne disparaît pas vraiment dans les enfers.
Ah, hélas, non. On se contente d'un entre-deux. Il faut faire avec ce qu'on a. En vérité, il s'escamote, puis il revient pour les saluts.
Parfait. Voilà exactement ce dont j'ai besoin.
Scène 6. Acte 2, scène 2. Les dessous d'un théâtre. Tenon et Mortaise, machiniste.
Mais à la fin, tu peux me dire, toi? On lui reproche quoi, ce Fougerolles?
D'être un filou.
Oui, mais encore?
D'être un gougnafier.
Ça se précise, merci, j'y vois plus clair.
Et aussi un malotru, un paltoqué, un malandrin, un escroc, un roublard, un crosseur, un brigand, un vilain, un ribaud, un gratteux, un ratoureux, un écornifleur.
T'en as encore beaucoup dans la même veine.
Pas tant que ça, une dizaine.
Je les écouterai tout à l'heure.
Si tu préfères.
Je préférerais encore mieux qu'on m'explique, toi par exemple, pourquoi ce monsieur Fougerolles est un malandrin. Le pourquoi du comment m'intéresse beaucoup dans cette histoire.
Tu n'es pas le seul. Par où commencer? Il agace du seul fait d'être un beau gosse et personne ne sait d'où vient toute sa fortune. On raconte des histoires de gabelles et d'octroi, beaucoup d'argent, beaucoup de confusion, des preuves éparpillées et du coup incertaines. Il y a surtout l'affaire des 6 millions.
6 millions? Il y en a qui ne se gênent pas?
Je continue.
Oui, oui.
Le roi avait besoin de 800 000 livres.
Pourquoi faire?
Attends. Donc le roi veut 800 000 livres. On décide de vendre des rentes pour 7 millions. Pendant ce temps, le gouvernement envoie au trésorier de l'épargne une ordonnance de 6 millions à sa décharge. Avec ces 6 millions, il donne quittance de la même somme aux acheteurs. On rabiote encore ici et là, si bien qu'au lieu de devoir payer 7 millions, ils n'ont plus qu'à payer 800 000 livres. Exactement la somme dont avait besoin le roi.
Le monde est bien fait.
Je veux. Seulement, les 6 millions du trésor de l'épargne, c'est Fougerolles qui s'en est occupé. Et le problème, c'est qu'ils n'existent pas vraiment.
Mais comment ça, ils n'existent pas?
Seulement sous forme de petits billets écrits à la main que Fougerolles a refait circuler ensuite, comme si c'était de la vraie monnaie. Pour le défendre, on dit que si les billets n'ont aucune valeur réelle, il ne peut pas y avoir vraiment de fraude.
J'ai rien compris.
Je recommence.
Non, surtout pas, je finirai bien par comprendre. Et quand je comprends des choses pareilles, je constate qu'elles m'échappent, et il n'y a rien de plus énervant.
Comme tu veux.
Maintenant, je veux bien les entendre.
Quoi donc?
Les 10 derniers qui te restaient tout à l'heure.
J'en étais où?
Écornifleur, je crois.
Ah oui, Écornifleur. Ceci dit, je n'ai rien contre ce monsieur. Il me serait presque sympathique. Alors, Picassiette, Parasite, Fripouille, Aigrefin, Filou...
Déjà dit.
Scène 7.
Carotteur, Fripon, Gouapi...
Acte 2, scène 3. Chambre à coucher. Molière et Armande Béjart.
Ne dis pas de bêtises, tu n'as pas la peste. Plus personne n'a la peste de nos jours. La fièvre afteuse, tout au plus. Ça t'apprendra à caresser des chèvres.
Tu crois tout ce que j'ai pu inventer et tu te méfies maintenant alors que la vérité m'accable. C'est écrit dans ce livre. Écoute, nos humeurs tournent en pourriture par obstruction, ce qui se fait principalement par la mauvaise manière de vivre. De là procèdent les causes principales de corruption par lesquelles tels corps sont frappés de peste.
Mauvaise manière, je suis d'accord.
Car après avoir bu des vins corrompus et des eaux putrides, comme celles qui sont marécageuses, dans lesquelles se dégorgent les égouts puants, auxquels aussi on aura jeté quelques ordures et jeté les excréments des pestiférés.
Tu es dégoûtant. Mais... tu tousses deux fois et voilà la peste noire.
Ou après avoir mangé méchante viande comme grain pourri.
Ça suffit. Donne-moi ce livre. Et arrête de tousser.
J'ai aussi une boule sous le bras.
Tu l'as toujours eue?
J'en ai une autre, sur l'aine.
Elle était là il y a 10 ans.
Oh, pas de cette taille. Et j'ai le teint bleu.
Mais non.
Mais si.
Tu n'es pas rasé.
Il me faudrait un autre oreiller.
Un quatrième?
Celui-là est plat et mou.
Celui-là est gros.
Peut-être, mais dur. Et le troisième est à la fois plat et dur. Or, l'idéal, pour un malade, c'est gros et mou.
Tu n'es pas malade.
Il m'arrive de saigner.
Moi aussi. Je n'en fais pas toute une histoire.
Fougerolles m'a commandé une pièce.
Bien, il va la financer. En quel honneur?
Il ne m'a pas dit exactement. Il veut me faire écrire un don Juan.
Le premier ne lui convient pas?
Il faut croire qu'il en veut un autre, version comique. Il me demande d'aller vite et je ne me sens pas la force.
Dans 3 jours, tu es sur pied.
Non, j'empire.
Ça te passera.
Fais-moi une faveur.
Quoi encore?
Tu peux t'en occuper. Tu peux l'écrire.
Le Don Juan ?
Tu sais que tu en es capable. Et moi aussi.
Rendors-toi. On s'en reparle à ton réveil.
Scène 8. Acte 2, scène 4. La scène d'un théâtre. Nicolas Fougerolles, surintendant des finances, et Giacomo Torelli, ingénieur.
En général, on ne s'embête pas avec les décors. Pour jouer Horace, il suffit d'un palais, le premier venu, et d'un fauteuil pour le cinquième acte. Pour jouer Cinna, il n'en faut pas beaucoup plus. Encore un palais, le même que pour Horace. Au deuxième acte, un fauteuil, deux tabourets. Au cinquième acte, un tabouret placé à gauche du roi.
De plus en plus raffiné.
N'est-ce pas ? Maintenant, pour le misanthrope de votre ami Molière, une chambre, six chaises, trois lustres. Pour le Tartuffe, exactement la même chose.
Mais pourquoi trois lustres ?
La coutume. Mais ces affaires de petit mobilier ne me concernent en rien. Je ne m'occupe pas des tabourets. Mon métier est d'une toute autre nature. Moi, je fais tomber la pluie, lever l'aube, scintiller la nuit, croître et décroître la lune sur commande. Si vous le souhaitez, je peux faire en sorte qu'une comète traverse le ciel d'est en ouest.
Mais votre comète est de bon augure ou un mauvais présage ?
À vous de décider.
Vous êtes bien aimable. Et dites-moi, puisqu'on parle de mauvais présage, vous vous chargez aussi de simuler l'enfer, j'ai cru comprendre.
L'enfer fait aussi partie de mes attributions. Juste en dessous du plancher de la scène, il faut vous imaginer 40 pieds de long en direction des profondeurs.
Pardon, mais ça ne me paraît pas suffisant pour atteindre l'enfer.
Je vous l'accorde. Mais c'est suffisant pour s'escamoter. Pour faire apparaître l'enfer, j'ai besoin d'une trappe dans le plancher. J'ai besoin aussi de deux ou trois hommes de confiance et qui n'ont pas froid aux yeux. Pour manipuler chacun une petite marmite percée au fond d'une ouverture assez large pour y faire passer une torche longue d'au moins un pied, de telle façon qu'elle ressorte par le haut. Je fais remplir la marmite de pois résine pulvérisée, puis je recouvre la marmite d'un papier fort dans quoi on perce des petits trous. Au moment où l'enfer s'ouvre, chacun agite sa marmite et sa torche allumée, de sorte que la poix s'échappe par les trous et s'enflamme. D'où il se tient, le spectateur voit s'envoler des milliers de flammes jusqu'au cintre. Le tour est joué.
Mais le théâtre peut prendre feu.
C'est un petit risque à courir. Jusqu'à présent, tout s'est toujours bien passé. Il doit y avoir un dieu pour ceux qui imitent le diable.
À coup sûr. Simple curiosité. Un homme qui s'abîme en enfer, Don Juan par exemple, où s'en va-t-il exactement ?
Par ici. Je vais vous montrer. Après vous.
Scène 9. Acte 2, scène 5. Bureau d'un ministère. Jean-Baptiste Colbert, ministre. Charles de Bas de Castelmore, comte d'Artagnan, sous-lieutenant de la Compagnie des Grands Mousquetaires.
On ne peut rien me cacher. Soyez-en sûr. Tous les secrets aboutissent dans ce bureau.
Je sais depuis longtemps qu'il vous est impossible d'ignorer quoi que ce soit. Mais on n'a trouvé aucune preuve chez lui.
N'existe-t-il pas un proverbe au sujet de l'absence de preuve qui n'est pas une preuve de l'absence ? Peu importe. Vous savez, il peut se permettre d'apposer sa signature tout en bas d'un billet sur lequel il a écrit 1 million de livres, et à l'instant où il relève sa plume, le million existe. Pourquoi ne pourrais-je pas faire de même ?
Mais je vous en prie.
Et si au lieu d'1 million de livres, j'écris 12 millions, ou zéro, ou je décide de convertir l'or en plomb, sans prévenir ? Ou bien je mets sur pied une conspiration contre le roi,
Je la signe d'un nom quelconque, choisi dans un recueil de M. de La Fontaine, Maître Corbeau. Je lève ma plume. Aussitôt, la conspiration existe.
Et Maître Corbeau, en prison, j'imagine.
Je serai le premier à le regretter. Je peux aussi bien écrire des lettres de dame, les signer comme elle l'aurait fait, conserver la trace de rencontres qui auraient très bien pu avoir lieu, mais qui ont manqué de témoins parce qu'elles étaient clandestines et qu'elles étaient la réunion de deux âmes conspiratrices.
Il n'y aurait pas là un peu de tricherie ?
Non, puisque les conspirations ont eu lieu. Je me contente de leur donner une certaine gloire.
Méfiez-vous de lui, il est malin.
Je le sais. Mais lui aussi se sait malin. Ça le perdra. On dit qu'il a commandé une pièce à Molière, avec toutes sortes de machineries, d'apparitions de diables, et le char du soleil.
Il manigance quelque chose.
Bravo, mon ami, bravo. À vous non plus, on ne peut rien cacher.
Scène 10. Acte 3, scène 1. Les dessous d'un théâtre. Giacomo Torelli et Nicolas Fougerolles.
Voilà notre enfer. Ou ce qui ressemblera le mieux.
Et rien de bien effrayant.
Pour le moment. Attention tout de même où vous mettez les pieds. C'est un lieu humain mais traître. Bélial, Asmodée, Belzébuth, Méphistophélès, Astaroth. Ils sont tous passés par là et maintenant ils sont devenus de grandes vedettes.
Et j'aimerais bien voir l'une de ces marmites avec lesquelles vous soufflez des flammes.
Monsieur, entre nous soit dit, vous méritez mieux que les dessous. Vous ne voulez pas plutôt vous intéresser au ciel ? Il y a aussi beaucoup d'espace au-dessus de la Seine. Et tout en haut, des cintres, des ponts et des passerelles, des perches, des poulies avec des contrepoids. Tout ce qu'il faut pour faire flotter des nymphes à la rencontre du soleil.
Je vois ça d'ici.
J'ai déjà animé le char de Phaéton. Ça m'a valu l'un de mes plus beaux succès. J'en ai eu beaucoup d'autres. Au lieu de tomber chez Satan, vous ne préférez pas vous envoler, comme on dit, toujours plus haut ? Je pourrais vous donner les ailes d'Icare.
Ah non, pas lui.
Vous avez raison. Je pourrais reconstruire pour vous la statue en pierre du commandeur. Mais cette fois, vous le battrez.
Il ne faut pas trop en demander.
Venant de vous, ça m'étonne. Sachez aussi que je peux faire briller des reflets dorés sur l'aile de 10 000 anges avec une seule chandelle et une dizaine de petits miroirs.
Mais je sais en faire autant. Sauf qu'à la place des anges, il s'agit de louis d'or.
Vous et moi, nous donnons un autre théâtre. L'ancien a déjà disparu.
Celui de Corneille ?
Celui de Colbert. Celui des vieilles machines et des vieilles machinations. Laissez-moi plutôt vous montrer comment moi, je fais disparaître un personnage.
Volontiers.
Je fais d'abord dessiner le fantôme sur un morceau de toile. Ensuite, je le fais découper.
Scène 11. Acte 3, scène 2. Chez Molière. Armande et Madeleine Béjart.
Moins fort, il va se réveiller.
Penses-tu ? Il est juste à côté.
Molière dort comme une souche sur ses 4 oreillers. Ou 5, je ne sais plus. Parfaitement gros et mou, gras comme des chapons. Il se réveillera à Pâques. Alors, tu as des idées ?
Oui, et toi ?
2 ou 3, je t'écoute.
Bon. Il faut un donjon à monsieur, mais Don Juan est mort. On ne peut pas lui servir un Don Juan ressuscité.
Ça ne tiendrait pas.
Je suis bien d'accord. Don Juan repenti non plus, ce ne serait pas drôle. Alors j'ai pensé à Don Juan malgré lui.
Bien. Moi, j'ai un Don Juan imaginaire.
Et j'ai aussi Don Juan ridicule. Avec ça, on doit pouvoir s'en sortir.
Ou l'école des Don Juan. Le vieux Don Juan à la retraite apprend à ses élèves à seller une mule, à monter à cheval, à soudoyer des domestiques, à observer les phases de la lune et les noter dans son agenda, à farder une paupière, à écrire une lettre de rupture avant la lettre d'amour. Au deuxième acte, on introduit dans son école une femme déguisée en homme. Elle a des bottes aux pieds et une paire de moustaches en poil de castor.
Oui, un travesti, la vieille astuce.
Elle compte bien profiter des leçons, elle aussi. Elle ne veut plus chevaucher en Amazone, mais comme tout le monde, une jambe de chaque côté. Au troisième acte, elle a compris les leçons, assez pour les appliquer à son maître.
Il doit y avoir moyen d'en tirer quelque chose. Je vais te dire comment je vois mon Don Juan malgré lui. Imagine un prêtre, bien fait de sa personne, avec les mains douces comme on les aime, enfin, moi je les aime comme ça. Il a fait ses vœux de chasteté, mais à la suite d'on ne sait quel coup du sort, il ne peut pas s'empêcher de séduire tout ce qui porte une jupe. Exception faite des curés, bien sûr. Les femmes du voisinage se partagent en deux clans, celles qui veulent le pousser dans leur lit et celles qui veulent l'attirer dans leur lit. Il trouve le stratagème de choisir son bedeau pour le remplacer à la dernière minute dans les chambres, en profitant de l'obscurité. Mais rien ne se passe comme prévu, son bedeau ne sait pas s'y prendre, et puis il est couvert de verrues.
Ton histoire est parfaitement immorale.
Je sais, mais il finit par disparaître par une trappe, alors la morale est sauve. La sienne, en tout cas.
Qu'est-ce que tu dis de mon Don Juan imaginaire ? Toutes les femmes bernées par Don Juan, les marquises et les femmes de chambre, les filles de ferme et les duchesses, lui intentent un procès. C'est un procès par contumace puisque le galopin a disparu. Au deuxième acte, survient un type à cheval vaguement ressemblant, opportuniste, fanfaron. Il revendique le nom de Don Juan. Il prétend que les épreuves ont altéré les traits de son visage. Il dit se souvenir du moindre de ses crimes. On finit par le croire.
Mais c'est un imposteur.
Bien entendu. Un pauvre garçon, célibataire depuis la nuit des temps. Il accepte de se faire pendre à l'issue du procès pour le seul plaisir de se voir attribuer des milliers de conquêtes. Un plaisir qui ne dure pas.
En général, les plaisirs ne durent pas longtemps. Une sorte de comédie du vantard puni, ça pourrait plaire aux bonnes sœurs. Sinon, pourquoi pas un Don Juan ridicule ? Don Juan est devenu un vieux beau, toujours tiraillé par son vieil appétit, toujours le même, mais sans les moyens de le satisfaire. Son cheval est fourbu, sa bourse est plate. Alors il vivote, déchiré mollement entre la nostalgie et l'espérance. Pour se donner l'illusion de pouvoir encore faire quelque chose, il se prend un disciple. Il veut en faire un élève digne du maître. Seulement...
D'accord, je vois ça d'ici. Son disciple est un abruti.
Pas loin. J'imaginais un théologien obsédé par Saint Bernard de Clairvaux.
À chacun ses nuits, à chacun ses rêves.
À qui le dis-tu ? Le ridicule, c'est de voir le vieux Don Juan obligé d'expliquer aux jeunes garçons les mérites de l'amour. Son fonctionnement, ses effets, ses conséquences, ses procédures, ses gratifications. Plus il doit entrer dans les détails, plus il se sent idiot. À chaque fois qu'il apporte un exemple concret, l'autre répond invariablement « Où tout cela nous mène-t-il exactement ?» Il le répète à tout bout de champ. Au troisième acte, le vieux Don Juan apporte au blanc-bec un aphrodisiaque, une racine de je ne sais quoi. Et alors, tu me vois venir ? L'autre pense qu'il s'agit d'un morceau de la vraie croix. Il l'embrasse avec dévotion, il finit par en croquer un bout. À la scène suivante, bien sûr, il y a des conséquences et il les constate.
Et alors ?
Il reste comme ça. Il se caresse le menton, pensif, en disant « Où tout cela nous mène-t-il exactement ?»
Bien, il y a de quoi faire. Il nous faudra des rôles à toutes les deux. Et puis un fâcheux, un valet, un marquis parfumé, un philosophe avec des poux dans la perruque.
Un rôle d'ingénu pour Mademoiselle Debry.
Et à la fin, des diables surgissent par le plancher.
Il y en aura.
Scène 12. Acte 3, scène 3. Un petit salon. Nicolas Fougerolles, Madame de Sévigné.
C'est à vous de jouer. Mais cette fois, concentrez-vous. On ne joue pas au chat qui dort. Il n'a pas tort, votre ingénieur. Colbert représente la machinerie ancienne, les placés, les juges, les tribunaux, le banc des accusés, la galerie des hommes de robe. La machinerie de la cour aussi, qui a ses manies, ses préférences et ses ratés. Des rouages puissants, mais un peu retardataires, et bientôt vermoulus. Je ne compte pas la machinerie des prisons.
Comment voulez-vous que je me concentre si vous me parlez de Colbert et de ses machines ?
Il faut apprendre à faire deux choses à la fois, mon ami. Placer sa tête à un endroit, mais la voir secrètement ailleurs.
Tiens, voilà votre secret. Vous manœuvrez comme ça ?
Toutes les femmes manœuvrent de la sorte. Ça n'est pas un secret pour elles. À vous.
À moi déjà ? Que dites-vous de cette réplique ?
Valet de trèfle. Je l'attendais.
Ah.
On dit que Molière écrit un autre Don Juan pour vous ?
Exact.
Mais on dit qu'il est malade et qu'il crache dans ses oreillers.
Plus ou moins vrai. D'où sortez-vous ce 10 de cœur ?
De ma main.
Vous ne l'avez pas déjà joué tout à l'heure ?
Un 10 de carreau ou un 9 de cœur ? Concentrez-vous.
Je vais le jouer.
Attendez votre tour.
Non, je veux dire, je vais jouer le rôle de Don Juan. Molière est malade, Duparc est mort, Brécourt n'a pas le physique, Lagrange, je n'en veux pas, et puis c'est un jeune premier. Je serai parfait dans ce rôle. Il suffit d'avoir de la mémoire et de savoir où placer ses pieds.
Le surintendant des finances se donnant en spectacle sur une scène. On va jaser.
Non, pas plus que quand le roi danse sur scène déguisé en égyptien. Dans le mariage forcé, vous vous souvenez ? Ah, des égyptiennes, il faut que je me fasse dire par elles ma bonne aventure. Aussitôt, le roi lève la jambe.
Don Juan est un rôle d'effronté. On va encore vous reprocher d'être présomptueux.
Don Juan finit damné. Il n'y a rien de plus humble. Et puis, j'ai toujours rêvé de faire l'acteur.
Vous ferez selon votre bon plaisir. En attendant, vous avez perdu. Distribué.
Encore ?
Si vous ne voulez pas votre revanche. Et dites-moi, dans votre Don Juan, il y aura des machines ?
Plusieurs. Dans les airs et sous terre.
Soyez prudent. Les machineries de Torelli sont si complexes qu'elles ne fonctionnent jamais du premier coup. Enfin, c'est ce qu'on raconte.
On dit tant de choses.
Scène 13. Acte 3, scène 4. Un théâtre à Paris. Le ministre Colbert et l'ingénieur Torelli.
Et ça, qu'est-ce que c'est ?
La grotte de Bellérophon, monsieur. Pour la scène 4 de l'acte 3 de la Finta Pazza. Je l'ai récupérée, je l'ai fait entreposer ici. Elle pourra toujours servir ?
Je me demande bien à quel usage.
La grotte d'un ermite, monsieur, ou l'antre de Circé.
Charmant. Et ceci ? Un costume de diable ?
Au théâtre ?
Lorsqu'un diable surgit sur la scène, ou un quelconque énergumène venu d'en dessous, je devine parfois la trappe s'ouvrir et se fermer. Or, déceler vos mécanismes gâche un peu l'effet de surprise et, partant, le plaisir. Mais, qui suis-je pour juger de votre art ? Et qui est celui-là ?
Le commandeur, monsieur, la statue.
Ah oui ! Et comment s'anime une telle armure ?
Je préfère ne pas dévoiler toutes mes ruses.
Mais, mon cher Torelli, si je voulais connaître toutes vos ruses, il me suffirait de lever un sourcil.
Bien sûr.
Celui-là. Vous voyez ? Le sourcil gauche. Le droit ne bouge plus depuis longtemps. Laissez-moi vous raconter une fable. Plutôt une pièce de théâtre, puisqu'on y est. Elle s'intitule « Le paltoquet ». Elle commence comme un drame et se termine comme une farce. Un paltoquet passe son temps à berner tout le monde. Le succès lui monte au nez, il se figure berner le roi. Le roi s'émeut. Il convoque son ministre, il lui demande d'être efficace. L'histoire vous plaît ?
On brûle de connaître la suite.
Le paltoquet devine la menace. Il s'en va trouver une sorte de... Comment appeler ça ? Un magicien ? Un rebouteux ? Un truqueur de cartes, comme vous voudrez. Il lui commande une machine pour s'envoler jusqu'à la lune, comme Cyrano de Bergerac, vous vous souvenez ? Une évasion.
Ingénieux.
Très ingénieux. J'ai dit que la fin est une farce. En vérité, je n'en sais trop rien. Il s'agit peut-être d'un drame. Tout dépend du magicien. Or, tout bien réfléchi, le magicien, le rebouteux, appelez-le comme bon vous semble, comprend avant qu'il ne soit trop tard qu'il risque gros à aller à l'encontre de la volonté du roi.
Et le paltoqué ?
Eh bien, je vous l'ai dit, sa fin est une farce. Au lieu de s'envoler vers la lune, il glisse dans les escaliers et se casse les deux jambes. Cocasse, non ? Oui. Je sais, ma farce ne fait pas beaucoup rire. Mais que voulez-vous, je ne suis pas Molière, moi. Seulement ministre.
Scène 14. Acte 4, scène 1. Chez Molière. Fougerolles, surintendant. Molière, dramaturge, alité.
Il est vrai, je trouve la pièce détestable, morbleu. Détestable du dernier détestable. Ce qu'on appelle détestable.
Et moi, mon cher marquis, je trouve le jugement détestable.
Quoi, chevalier ? Est-ce que tu prétends soutenir cette pièce ?
Oui, je prétends la soutenir.
Parbleu, je la garantis détestable.
La caution n'est pas bourgeoise. Mais marquis, par quelle raison, de grâce, cette comédie est-elle ce que tu dis ?
Pourquoi elle est détestable ?
Oui.
Elle est détestable parce qu'elle est détestable.
Après cela, il n'y aura plus rien à dire.
Bon, on va reprendre.
J'étais bien, non ?
Bien, oui, enfin, pas si mal. Plus ou moins, la comédie n'est pas ton fort. Mais ce n'est pas aussi mauvais qu'à l'hôtel de Bourgogne.
Je n'ai pas savonné.
Non, mais tu manques de naturel.
Je connais bien les marquis comme celui-là, ils n'ont rien de naturel.
Tu as raison, mais leur manque de naturel est très différent, il coule de source.
J'avais remarqué.
Quand tu as compris ça, tu as tout compris, ou presque. On reprend ?
Il est vrai, je trouve la pièce détestable, morbleu.
Scène 15. Acte 4, scène 2. Dessous d'un théâtre, Thenon et Mortaise, machiniste.
Thenon ! Thenon, tu connais la dernière ?
Non.
Je la tiens de Georgette, qui la tient de Pancras, qui l'a entendue de Mathurine à qui un curé l'a raconté. Pourquoi Dieu a fait les hommes libres ? Parce qu'il avait peur de s'ennuyer.
Je ne la comprends pas.
Ah, je t'expliquerai.
Je veux bien. Avant ça, je récapitule. Écoute bien. Au dernier acte, Don Juan est damné. Pouf ! Foudre venue d'en haut. Zouf ! Flamme du diable. Et hop, on ouvre la trappe, il disparaît en enfer. C'est compris ?
Ben, je commence à prendre le tour et du coup, je le récupère ici.
Non, pas ce coup-ci, il y a du nouveau. Monsieur descend encore d'un étage, au deuxième dessous.
En quel honneur ?
Regarde sous tes pieds, il tombera là-dedans.
Quoi, cette drôle de machine ? Je me demandais aussi à quoi elle sert.
Innovation du Signore Torelli. Fabriquée puis modifiée par ses soins plusieurs fois de suite. Pas plus tard que ce matin, il y était encore pour changer le sens des rouages.
Elle va nous le broyer, notre homme.
Dis plutôt l'envoyer à la Seine, ficelé dans un sac.
Très juste. On dirait une chaise à bascule.
On dirait une catapulte.
Une roue de moulin.
Un pont-levis.
Un tourniquet.
Une escarpolette.
Une coulisse.
Un pressoir à pommes.
Un attelage.
On dirait tout ça à la fois.
Mais comment elle fonctionne ?
Je ne suis pas dans les secrets du signor et ingénior. Il ne reste plus qu'à imaginer.
Scène 16. Acte 4, scène 3. Un plateau de théâtre. Fougerolles, surintendant. Molière, dramaturge.
Essayons celui-là. Tu es Sganarelle et tu viens demander conseil à un philosophe avant de te marier.
D'accord.
Je veux vous parler de quelque chose.
Et de quelle langue voulez-vous vous servir ?
Parbleu, de la langue que j'ai dans la bouche.
De quel idiome ? Voulez-vous me parler italien ?
Non.
Espagnol ?
Non.
Allemand ?
Non.
Anglais ?
Non.
Latin ?
Non.
Grec ?
Non.
Hébreu ?
Non.
Bon, pas mal.
Le texte est facile, toujours la même chose.
Si tu étais bon comédien, tu saurais dire 7 fois non de 7 façons différentes.
Non. 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 Non.
Ah oui.
Scène 17. Acte 4, scène 4. Bureau d'un ministère. Colbert, ministre. Castelmore, sous-lieutenant.
Je vous ai procuré une copie des plans.
Parfait, je vous en remercie.
Voici la scène. Une coulisse à droite, une coulisse à gauche. Là, l'orchestre et le parterre, mais ça ne vous concerne pas. Ce qui vous intéresse se trouve là, le premier dessous. Au dernier acte, notre homme passera par ici, exactement. Ce petit carré représente une trappe. Le public le verra tomber.
Tiraillé par les démons, perdu dans un nuage de fumée rouge.
Exactement. Le soi-disant damné sera le jouet d'une machinerie complexe censée le faire échapper à notre surveillance, dans les sous-sols, quelque part par là.
Je vois. Il prévoit de rejoindre la rue des bons enfants.
Pour finir au cimetière des innocents, peut-être ?
Si j'étais lui, je prendrais un autre chemin.
Et après ça, l'Angleterre. De toute façon, il ne doit pas dépasser ce périmètre. Vous l'attendrez ici, précisément, avec vos hommes.
Et s'il débouche d'un autre côté ?
Croyez bien que sa route a été dessinée d'avance. C'est même le roi qui tenait la plume. Vous savez, le plus dur dans cette affaire, ça a été de l'inquiéter, ce garçon insouciant. Sans l'inquiétude, il n'aurait jamais pensé prendre si bêtement la fuite. Heureusement, tous ses bons amis étaient là pour le prévenir.
Scène 18. Acte 5 et dernier. Scène unique. Tout le monde présent, ou presque. Un théâtre, quelques minutes avant le lever de rideau. Dans une loge, Madame de Sévigné et Molière, mal en point.
On dirait que vous avez le trac, pour une fois que vous ne jouez pas.
C'est encore pire. Et puis j'ai des étourdissements du côté gauche.
Tout va bien se passer. Notre ami est doué, vous le savez. Il va s'en tirer avec la grâce d'une alouette.
Il n'a pas répété suffisamment.
Ayez confiance, il est bien entouré. Et puis vous pouvez compter sur Torelli, il fait des merveilles.
Torelli n'est pas fiable. Je suis bien placé pour le savoir.
Précisément. Du moment où vous le savez, vous pouvez compter sur lui.
Derrière le rideau, Nicolas Fougerolles, Armande et Madeleine Béjart.
Tout va bien ? Le chapeau, la perruque ?
Je sens que je dégouline.
Ça fait toujours ça au début. Vous vous habituerez.
On ouvre sur le duo des marquises. Quand vous entendrez, il a le moi si étendu qu'il sert de centre à l'univers, vous entrez.
Où ça ?
En scène.
Mais j'y suis déjà.
Nous allons tous en partir. Allez, disparaissez. On va lever le rideau.
Oui, attendez. Où est la trappe ?
On vous a fait une marque.
Au dernier acte, quand vous criez « Je suis perdu », elle s'ouvre, on vous récupère en dessous, vous faites le tour, puis vous revenez pour les saluts.
Je n'ai pas prévu de réapparaître.
Premier dessous, tenant et mortaise.
C'est pour aujourd'hui ou pour demain ?
Tiens-toi prêt.
La salle est pleine.
Même les strapontins.
On a les marmites pour les flammes de l'enfer ?
Ne t'en fais pas avec l'au-delà. On a le temps de voir venir.
Quant à moi, je persiste à croire qu'elle a frappé à la mauvaise porte.
De quelle porte parlez-vous ?
Eh bien, je vous l'ai dit, de la mauvaise.
Je ne savais pas qu'une porte pût être mauvaise. Un homme, oui, un âne. On en rencontre tous les jours. Pour ma part, elles se valent toutes, et ce qui les rend mauvaises est ce que le visiteur aura le malheur de trouver derrière.
Il s'agit bien de cela. Et croyez-moi, la porte est
de mauvaise... J'ai placé 12 hommes derrière à l'endroit prévu. Une demi-douzaine d'autres attendent rue des Bons Enfants en cas de nécessité.
Bien, ça suffira.
18 contre 1, on ne peut pas perdre. Et pour le reste, Dieu nous aide.
Laissons-le plutôt en dehors de nos affaires. Mieux vaut compter sur des mortels parfaitement organisés.
Pour en voir le contenu. Et donc, qu'elle était innocente?
Prenez-la en pitié avec vos raisonnements, si cela vous chante. Après tout, je ne suis pas venue pour vous parler de cette porte.
On fera d'abord dessiner le contour d'un fantôme sur un morceau de toile, de la dimension et de la forme qu'on jugera à propos. Au revers de cette toile, on coudra 2 bâtonnets de bois, larges d'un pouce, épais d'un demi. Au sommet de ce bois, on fixera la toile, du côté qui représente la tête du fantôme. Son autre bout devra être tenu sous la scène par la personne chargée de le manœuvrer.
Bon, on approche de la fin.
Oh, je suis pas fâché.
Moi non plus, mon vieux. Quand tu entendras, je suis perdu.
Je sais. Tu ouvres la trappe, je referme le tiroir, tu repêches le contrepoids, je mets en retraite le fil sur la palette, et ainsi de suite. Espérons que ça marche.
Faut s'en remettre à la volonté du bon Dieu.
Ah bon? Je croyais qu'il connaissait pas la fin.
Chut, tais-toi, ça va être à nous.
Femme, démon, joueur, tout le monde me nargue. J'ai voulu bien agir, mais Dieu me tourne le dos, et le diable me tire par la manche. Je suis perdu.
C'était Comment faire disparaître une ombre de Pierre Sange avec Laurent Lederer, l'annonceur, Dominique Bettenfeld, Tenon, machiniste, Brice Hilleret, Mortaise, machiniste, Hervé Furic, Fougerolles, sur le modèle de Nicolas Fouquet, Jean-Paul Bézina, Giacomo Torelli, ingénieur, Laurent Cléry, Jean-Baptiste Colbert, Laurent Dolce, Jean-Baptiste Poquelin, dit Molière, Clément Lagouarde, Charles de Bas de Castelmaur, comte d'Artagnan, Evelyne Guimara, Madame de Sévigné, Marie Eck Mosseur, Marguerite, servante, Rebecca Stella, Armande Béjart, Catherine Tartarin, Madeleine Béjart, Bruitage, Bertrand Amiel, conseillère littéraire, Caroline Oisana, équipe de réalisation, Valérie Lavalard, Emmanuel Armingue, Romane Chiban, Jean-Mathieu Zande
et Laurent Binder.